Évangile et liberté.
L'émission mensuelle du protestantisme libéral. Pour cette nouvelle émission Évangile et Liberté, chers amis, si je vous dis le mot « la grâce », il est fort probable que celui-ci appellera les mots « aisance »,« agrément », »,« amabilité », »,« attrait », »,« beauté », »,« charme », »,« délicatesse », »,« douceur », peut-être le mot « pardon » ou encore « amnistie ». Dans cette émission du mouvement du protestantisme libéral, nous allons ouvrir ce mot dans un univers plus existentiel, théologique, et nous allons faire cela avec l'auteur du livre « La grâce pour tous » qui paraît aux éditions La Baume Rousse. Bonjour James Woody.
Bonjour Guylaine.
Alors James Woody, ai-je encore besoin de le dire? Vous êtes pasteur à Montpellier, vous avez présidé l'association protestante libéral et dirigé son mensuel Évangile et Liberté, et vous avez publié deux précédents livres, Grain de sel chez Actes Sud et Vivre la liberté aux éditions du Cerf. Alors, quel lien faites-vous entre ces trois livres? Une progression, un pas de plus?
Oui, peut-être dans le sens de l'approfondissement de ce qui est le cœur de la théologie. C'est-à-dire que Grain de sel, c'était une présentation générale du protestantisme. Vivre la liberté, bon, bah, quand j'étais président d'Évangile Liberté, c'était une sorte de manifeste, ça allait de soi. Et là, j'ai essayé de prendre finalement ce qui est le cœur de la réforme protestante, la grâce seule, même, dit-on, pour essayer de redéployer ce cœur de la théologie pour quelqu'un qui n'y croirait pas. Mon intention, c'était de rendre la grâce crédible à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler, peut-être même qui ne veut pas l'entendre parler, parce qu'il considère que ça, c'est un truc de religieux réservé pour les lieux de culte le dimanche matin. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de montrer comment la grâce était quelque chose de disponible dans la vie quotidienne pour tout un chacun.
Alors, en effet, vous nous dites que la grâce n'est pas une affaire de religion, cela dès les premières phrases, dès les premières pages, mais vous dites aussi que le christianisme a mis la main sur la grâce, et vous dites encore que la grâce est celle qui est exprimée au moment du baptême. Alors quand même, il y a beaucoup de religieux dans ce mot-là.
Il y a beaucoup de religion dans le mot grâce et c'est assez ambigu. Je crois que dans le baptême, nous essayons de montrer qu'il y a de la grâce pour tous, justement parce que quand on baptise un nouveau-né, il n'a vraiment rien fait pour mériter cela. Il n'a rien fait pour mériter ce geste d'amour qui consiste à lui dire « Écoute, tu es le bienvenu et tu as ta place comme tout un chacun dans cette société humaine. » Et personne ne pourra jamais contester cette place-là. Donc ça, c'est la grâce qui a une dimension inconditionnelle. Voyez. Et il y a des moments où la religion, du coup, fait un commerce de cela. Et on peut se dire déjà, par exemple, d'une manière très pragmatique, si on faisait un tarif pour les baptêmes, ça serait une façon de monnayer la grâce, vous voyez ? C'est ce qu'on appelle la simonie. Tu me donnes de l'argent et en échange, tu as de la grâce. Le geste de Martin Luther avec les 95 thèses consiste notamment à récuser le fait que l'Église puisse administrer le salut et puisse en quelque sorte le vendre. Donc la grâce est inconditionnelle où elle n'est pas, et la religion serait bien inspirée d'être toujours la servante de la grâce dans son caractère gratuit, justement, et qui n'est jamais monnayée et jamais conditionnée à la bonne volonté des uns ou des autres. Je veux dire par là que quand quelqu'un qui n'a jamais mis les pieds dans une église me demande un baptême pour son enfant, je ne dis pas non, commencez par passer 2 ans dans la paroisse et après on en discutera. Parce qu'elle est déjà au bénéfice de la grâce. Et moi, je suis juste là pour mettre en évidence cette grâce première.
Alors, j'aurais quand même envie, je dis quand même parce que je m'étais dit, je ne vais pas vous demander la définition de la grâce.
Ça tombe bien parce que j'en ai pas donné.
Oui, mais voilà. Alors, on parle d'un mot finalement pour lequel il faut lire tout le livre.
Oui. Bien sûr. Il faut d'abord l'acheter et ensuite le lire.
Ça. On est loin de la grâce, là.
Non, pas du tout.
Et parce que je me dis aussi que ce n'est pas un mot, comment dire, facile à identifier pour celui qui n'est pas dans vos affaires de religion, justement. Qui parle de la... Encore une fois, la grâce, je l'ai dit au début, ça évoque plein d'autres choses que ce que vous en dites.
Oui, vous avez eu d'ailleurs tout à fait raison de faire cette liste qui est à la fois très belle et sans rapport avec ce dont je parle. Et je dirais que tout ce que vous avez dit, c'est mignon, mais c'est très faible par rapport à ce qu'est la grâce. Et je ne définis pas la grâce parce que je dis que la grâce surabonde et donc elle dépasserait la définition, comme Dieu dépasse la définition de Dieu. Mais on peut quand même donner peut-être trois caractéristiques qui ne sont pas des éléments de définition, mais qui permettent peut-être de mieux comprendre ce qu'est la grâce. Je dirais que la grâce est divine en ce sens qu'elle est inconditionnelle, qu'elle est transcendante et qu'elle est universelle. Alors, le côté inconditionnel, on en a parlé, c'est sur la question de l'identité, par exemple. Quand vous rencontrez quelqu'un dans la rue, dites-vous que cette personne est au bénéfice de la grâce et que du coup, ça en fait un frère ou une sœur. Voilà. Ensuite, le côté transcendant, je dirais que la grâce, elle est contre nature. Vous parlez du pardon. La grâce a un rapport avec le pardon parce que il y a des choses qu'on estime impardonnables. Au fond, la grâce nous révèle que personne n'est impardonnable, au sens où personne ne devrait être enfermé dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a dit ou de ce qu'il a pensé.
Alors, vous l'évoquez aussi dans votre livre, avoir ce positionnement-là, ça veut dire que se retrouve au paradis, si on est dans une conception théologique mythologique des hommes et des femmes qui sont, à nos yeux, impardonnables.
Oui, on a Paul Pot et Martin Luther King côte à côte.
Voilà.
Ou d'autres, mais il faut changer un peu les...
Et c'est assez difficile à accepter, de notre point de vue, là, de...
Je me souviens justement d'un éditorial de Raphaël Picon qui avait dit les choses avec des termes assez semblables et quelques paroissiens m'avaient dit « Non, c'est inadmissible, ce n'est pas possible. » C'était des paroissiens qui avaient eu des membres de leur famille morts en camp de concentration. Et j'ai maintenu cette position d'un salut universel parce que justement, la grâce va contre cet instinct qui consiste à dire qu'on peut perdre notre dignité. On peut, à un moment donné, être considéré comme un animal sauvage et être traité comme un animal sauvage. Je crois que la grâce, c'est justement ce qui nous fait prendre conscience qu'on ne devrait jamais considérer quelqu'un comme un animal sauvage et le traiter comme tel, sinon nous devenons nous-mêmes, en fait, cet animal sauvage. Et c'est la raison pour laquelle il y a un rapport à la justice marqué par la grâce qui distingue la justice de la vengeance. Et peut-être que, pour une part, si bien des protestants se sont engagés contre la peine de mort, c'est au nom de cette grâce qui fait que notre condition est transcendée en bien des circonstances. Mmh. Et puis la dimension universelle, c'est de constater que l'autre devrait toujours être intégré dans notre équation personnelle, finalement. Et je pense à la question de l'écologie. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal à prendre cette question de l'écologie d'un point de vue théologique. Je vois bien les incidences climatiques, scientifiques, etc. Mais qu'est-ce que je peux en dire en tant que théologien ? Et en fait, je me suis rendu compte que, bien souvent, on faisait de la nature une chose, un objet, on l'objectivait, pour le dire de façon un peu philosophique, ce qui fait que, eh bien, finalement, ça devenait une sorte de quantité négligeable. C'est comme un objet, on peut s'en séparer, si ça se détériore, c'est jamais qu'un objet. Alors que si on prend conscience que, par exemple, un animal a une forme de liberté qui lui est propre, eh bien, il va y avoir un respect qui va s'imposer. Et je repense à un prêtre orthodoxe qui élevait des chevaux en région parisienne. Et un jour, il est en promenade en forêt. Et puis, il croise une famille. Et puis, l'enfant lui demande si il peut caresser le cheval. Et lui, sa réponse a été « il faut lui demander ». Et je trouve que c'est intéressant parce que ce n'est pas quelque chose à notre disposition. Mmh. Et du coup, le regard change. Et le fait qu'il y ait aussi une dimension universelle à la grâce, c'est vrai pour le regard que l'on porte sur la nature, mais du coup, que l'on porte aussi sur les autres. Et l'autre doit justement être intégré dans notre pensée globale, du coup.
Il me semble aussi que vous évoquez ça dans votre livre lorsque vous dites que être dans une relation de la grâce, ça nous permet de considérer l'autre comme un sujet, non plus comme un objet.
Exactement,
là, vous en parlez, vous parlez ainsi de la nature, en ouvrant ça. Et je voulais aussi revenir sur ce que vous disiez juste avant, cette grâce-là qui est accordée à tous. Je pense que ça devrait faire écho aussi aux aumôniers de prison qui rencontrent perpétuellement des personnes qui se sentent eux-mêmes, non indigne d'une reconnaissance humaine de sujet. Et quand on écoute des aumôniers, c'est un discours qu'ils ont tout le temps, c'est de redonner la place de sujet à cet homme-là qui a été déconsidéré. Certes, il a fait un acte répréhensible, mais lui-même est dans une situation de dénigrement par rapport à lui.
Oui, d'ailleurs, il y a cette fameuse phrase du théologien Paul Tillich, la grâce, c'est le fait de découvrir qu'on est accepté en dépit du fait qu'on est inacceptable. Voilà. On a le sentiment d'être indigne, et pourtant, quelqu'un nous dit que notre dignité est inconditionnelle. Et vous avez raison d'indiquer le ministère des aumôniers en général, parce qu'ils sont là, j'allais dire, pour rien, mais pour la personne, en fait. Par définition, l'aumônier n'est pas là pour remplir une église, puisqu'il n'a pas d'église. Il n'y a même pas d'histoire de faire de l'argent, puisqu'il n'y a pas de contrepartie financière. Et puisque vous évoquez principalement la question de l'aumônerie en prison, bien souvent, les aumôniers disent qu'ils ne demandent pas ce qui a été la cause de la peine qui a conduit les gens en prison. Parce que, justement, il y a cette idée que l'homme n'est pas réductible à son infraction ou à son crime. Et tout de suite, ça change le regard que l'on peut porter sur soi-même. Et c'est comme cela aussi qu'on est réintégré dans le tissu humain. Et je pense que les rencontres de Jésus sont de cet ordre-là. Il ne cherche pas à faire le jugement de la personne, à retrouver les culpabilités, les causalités, etc. D'ailleurs, on le voit avec l'aveugle de naissance. Il dit, en fond, ce qui compte, c'est ce que nous allons faire de cette situation. Et si cet homme est aveugle, c'est pour la plus grande gloire de Dieu, au sens où c'est son avenir qui est en jeu, et parce que nous allons prendre soin de son avenir et que nous allons lui dire que tu es l'un des nôtres, la gloire de Dieu va être manifestée, parce que Dieu est bien le Dieu des vivants et pas le Dieu du passé, le Dieu des morts, en fait.
Alors, vous prenez là un exemple tiré de la Bible, de l'Évangile. Et ce que j'ai apprécié dans ce livre-là, c'est que la grâce pour tous, aux éditions La Baume Rousse, James Woody, c'est que justement, vous ne vous appuyez pas sur, en les citant, ces textes bibliques. Et en cela même, on sent bien qu'il y a du sous-texte évangélique et biblique, bien évidemment, mais vous ne donnez pas des références en bas de page, Matthieu 6, là, là, là. Et en cela, je trouve aussi que vous adressez à tous. Vous parlez d'un sujet théologique central, vous l'avez dit, sans nous asséner de références bibliques que nous n'avons pas tous, justement.
Oui, alors je fais quand même référence souvent à des textes bibliques. Alors je n'ai pas mis des notes en bas de page.
En sous-texte, voilà. Bien sûr. C'est ça, c'est la force. Mais... c'est la force de votre écriture.
Ah oui, merci Guylaine. c'est à la fois peut-être la force de mon écriture, mais c'est surtout l'exigence de notre vocation commune qui est d'être théologien, c'est-à-dire d'observer Dieu dans notre vie quotidienne. Et il me semble que tout l'intérêt de notre travail théologique consiste à débusquer l'action de Dieu dans ce que nous vivons, et pas simplement dans les textes bibliques. Au fond, les textes bibliques sont comme des lunettes qui permettent de corriger notre vue pour mieux voir ce qui se passe autour de nous. Ce qui fait qu'on peut aussi bien observer, comme je le fais, la sexualité, que l'architecture, que l'économie dans ce cas-là de plus cannibale. On parlait de la justice, on a parlé de l'écologie, on parle aussi des sciences dans une certaine mesure. Et puis, vous parliez aussi d'approche existentielle de la grâce. Observons quelqu'un et voyons comment il est au bénéfice de la grâce et comment ça se joue dans son identité, dans sa vie quotidienne, dans sa relation familiale, la relation à la patrie. Moi, je suis toujours frappé de constater que finalement, on est dans une société qui a tendance à faire de nous un objet. La grâce nous libère de cette objectivation dont vous parlez pour refaire de nous un sujet. Et ça nous donne une grande liberté. Parce que finalement, on n'est plus un objet de consommation. On n'est plus non plus un objet des partis politiques. On n'est plus un objet des gourous, de la communication, etc. Et c'est ça l'intérêt de la théologie, c'est de pouvoir aider chacun à reprendre en main son existence propre.
Alors, vous l'avez dit, vous allez toucher dans ce livre de nombreux domaines qui nous sont communs dans la société. Et vous avancez l'idée, par exemple, que le principe du revenu minimum universel est une bonne idée pour renforcer une société, je vous cite, une société fondée sur la grâce et pour augmenter la valeur de la société. Alors comment est-ce que vous construisez cela, James Woody, à l'aune de la grâce ?
Eh bien, je me disais que quand je baptise un enfant, je lui dis que donc, sa place est là de façon inconditionnelle et que la vie n'est pas un cadeau empoisonné, mais au contraire, ça va être la possibilité pour lui d'un plein épanouissement. Et comment mieux dire la grâce que ce principe du revenu, j'allais dire universel, qui permet de ne plus se préoccuper de ce que je vais devoir gagner pour vivre, c'est-à-dire pour me nourrir, pour me mettre en sécurité sous un toit, etc., de façon à ce que je sois entièrement libéré pour faire valoir mes talents et ma créativité. Et ce n'est pas une réflexion qui vient de moi, hein, la question du revenu universel, ça date des années 70, hein, c'est une longue chaîne de réflexion, mais moi je la pense de façon théologique, en me disant que c'est une réponse politique à ce caractère gracieux de l'identité qui est que nous n'avons pas besoin de faire nos preuves pour pouvoir exister. Nous sommes d'abord quelqu'un et ensuite nous pouvons faire valoir nos talents. Mais comment les faire valoir si, en fait, on est en situation de devoir d'abord survivre ? Et donc, je pense qu'il y aurait une belle chose collective à organiser qui consiste à pouvoir se dépréoccuper de ces question d'intendance, pour pouvoir se consacrer entièrement à ce qui forge notre humanité. Et qu'on ne soit plus des mendiants, en quelque sorte, de ce minimum vital, pour pouvoir nous investir dans des actions qui créeront de la valeur ajoutée, en fait.
Alors, j'entends bien ce que vous dites, et pourtant vous lancez, me semble-t-il, une petite pique à ces associations d'entraide qui veulent aider les plus démunis. Et vous nous dites, la grâce en matière d'entraide, ce n'est pas de les maintenir en vie biologique, c'est de viser la liberté des personnes. La grâce n'est pas une affaire d'entretien. Le revenu minimum universel serait ce minimum d'entretien. Et paradoxalement, je dirais, mais c'est sûrement pas un paradoxe dans vos propos, on va le voir, que l'entraide, finalement, elle se contenterait du minimum syndical. Voilà, juste comme vous dites très bien, leur maintien en vie biologique. Vous attendriez autre chose.
Oui, parce que il y a dans notre façon de faire de l'entraide une sorte de minimalisme, c'est-à-dire que on répond à la demande le plus souvent, c'est-à-dire que quelqu'un a faim et du coup on lui donne à manger. Quelqu'un a besoin de se vêtir et on le vêtit. Et ben, on n'a encore pas fait notre mission théologique. C'est-à-dire que chaque acteur est là pour apporter ce qui est son expertise ou ce qui est son cœur de métier. Et nous, notre cœur de métier, c'est justement de pouvoir nourrir la vie spirituelle des personnes. Et donc, si nous participons à cette action d'entraide qui consiste à couvrir quelques besoins, je dis bien quelques besoins, sans prendre en charge l'éducation, sans prendre en charge la restauration de l'image que ces personnes peuvent avoir, eh bien, on les maintient dans l'état. Et je constate que bien souvent, dans nos services d'entraide, nous avons les mêmes personnes d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que les personnes ne s'en sortent pas. C'est-à-dire que c'est un constat objectif. Ouais. J'en discutais avec des personnes qui organisent des choses tout à fait sympathiques, généreuses, et qui se félicitent, 3 ans après, que les personnes continuent à venir. Ben, en fait, je pense que c'est plutôt un constat d'échec.
Parce que les services sociaux municipaux disent la même chose,
oui,
en effet.
Et je pense qu'il y a en France un problème, c'est que les services sociaux associatifs sont au bénéfice des subventions, et les subventions ne tombent que si on a des personnes dans les fameuses files actives. C'est-à-dire qu'on utilise finalement les bénéficiaires pour sauver les salaires des associations. Vous voyez, il y a un effet pervers. On devrait éradiquer la misère. Mais si on éradique la misère, du coup, on éradique les services sociaux. Eh bien, ça serait merveilleux. En fait, ça devrait être ça, la perspective. Et la perspective, en fait, d'année en année, c'est comment on fait pour sauver l'association ? Comment on fait pour donner encore une raison d'être à l'association ? Eh bien, je pense qu'on se trompe de perspective. Et la grâce consiste à justement donner à quelqu'un tout ce qui lui est nécessaire pour qu'il n'ait plus besoin de nous. Mais Confucius le disait déjà, si tu donnes un poisson à manger à quelqu'un, tu le nourris un jour. Si tu lui apprends à pêcher, tu le nourris toujours.
Oui. Et est-ce que ce n'est pas une utopie terriblement folle de penser que la misère serait, comment dire, pourrait être écrasée?
Oui, c'est déjà Jésus disait « Occupez-vous de moi parce que les pauvres, vous les aurez toujours ».
Ouais, voilà.
Bon, ça, d'accord, très bien. Ok, donc, je maintiens néanmoins que, à supposer que ce soit une utopie, c'est l'utopie qui doit guider une société. C'est-à-dire que si ce n'est pas cela, ça signifie que nous avons une société qui, délibérément, fonctionne sur le dos des pauvres. Et ça, c'est insupportable. Et je le dis dans le monde économique, si nous n'avons pas la grâce, il y a bien des moments où les entreprises coincent. C'est-à-dire que si on s'en tient à la fiche de poste, si on s'en tient à la loi, si on s'en tient au règlement, si on n'apporte pas ce supplément d'âme, cette grâce surabondante qui transcende ce qu'on attend de nous, alors en fait, la machine se grippe. Et donc, il est inconcevable de se dire que, puisqu'on risque d'avoir toujours de la pauvreté, on ne s'occupe plus des pauvres. Sinon, ça signifie qu'on crée un système qui tire profit de cette pauvreté. C'est un peu comme le Monopoly, finalement. Et notre vie devient un grand Monopoly.
Alors, je l'ai dit, vous l'avez dit, nous l'avons dit ensemble depuis le début de cette émission, James Woody, la grâce peut mailler nos vies à tous les endroits. Et aussi et surtout dans notre vie amoureuse. Je pense que vous étiez amoureux, James Woody, quand vous avez commencé ce livre. Car c'est l'amour qui ouvre le livre. Et vous nous dites, c'est la grâce qui attire les amoureux vers une sexualité généreuse. Pas d'amour sans la grâce.
Oui. Et oui, parce que...
Vous avez très peu de temps, malheureusement.
C'est pas très grave, ça sera précoce comme fin, tant pis. Oui, parce que si la grâce anime cette relation amoureuse, alors on est vraiment l'artisan du bonheur de l'autre. Parce que l'autre est un sujet, du coup, il y a une interaction, et c'est une interaction qui est très positive. Alors que sinon, on se sert de l'autre pour obtenir sa jouissance. Et donc, l'autre... On s'en sert, mais il n'est plus du tout acteur. Et du coup, c'est beaucoup moins intéressant. C'est même beaucoup moins jouissif. Mais il y a surtout que dans le Cantique des Cantiques, on voit bien que cette grâce qui anime les deux amants en fait quelque chose d'extrêmement poétique et qui donne à rêver, qui donne à penser et qui est une sorte de démarche infinie. Ce qui est beaucoup plus intéressant que la conjugalité qui résonne simplement en termes de devoir.
Absolument. Alors, nous avons ce livre, s'ouvre sur le sentiment amoureux, l'amour et la grâce. Nous mettrons dans cette fin d'émission Finley Quay, You Love Get Sweet Every Day, un reggae de 1997. Et pour terminer, je dirais qu'il y a bien des phrases à extraire de ce livre, des citations qui pourraient s'écrire sur les sets de table du petit déjeuner quand vous commencez votre journée. Alors j'en ai retranscrite plusieurs sur le site radiofmplus.org, sur le descriptif du podcast de cette émission. Je salue aussi les éditions La Baume Rousse qui sont logées à Recoubeau-Jansac, dans la Drôme, qui parient sur cette théologie de la liberté et de la vie, la seule qui vaille, quoi qu'il en soit. Alors cette émission d'Évangile et Liberté s'achève. L'Évangile et Liberté est diffusée sur Fréquence Protestante à Paris, sur FM Plus à Montpellier. Vous pouvez obtenir des numéros d'Évangile et Liberté, et cela gracieusement, au numéro de téléphone suivant 09 53 43 45 71. Bien sûr, il y a un site internet évangileliberté.net, et vous, James Woody, vous avez aussi un blog Esprit de Liberté.
Merci beaucoup, Guylaine.
On n'a pas tout dit, mais presque.
Non, mais la grâce surabondera par ailleurs.
Au revoir. You know you smile, woman. You treat me so damn fine. You give me such an appetite, and I need your loving every night. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day.
when you kiss my lips, make me wanna go head over heels for you, yeah. When you whisper in my ear, what I say is how I feel for you, yeah. Mm-hmm. Your love gets sweeter every day. 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 Since I was sweet 16, I wanted you to make you my queen. Then until the day you were, you're the loving girl that's taking my hand. Your love gets sweeter every day. 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 Now I'm glad I'm older, man. See, things are riding to plan. And baby, if you promise me, we can build our world together. Love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. Your love gets sweeter every day. So sweetly when you walk, when you talk, when you dance for me, girl. Walking so sweetly when you walk, when you talk, when you dance with me, girl. Boom, ba, 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 boom, ba, boom, 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 boom,